Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Dans quelle situation serons-nous lundi prochain ? C'est par cette question que je concluais la chronique de lundi dernier, donc chronique qui s'était située au lendemain du premier tour des élections législatives, dont je ne rappellerai pas les résultats. Et à cette occasion, je rappelais les déclarations faites par la Fédération nationale de la libre pensée. Pour en revenir à la question « Dans quelle situation serons-nous lundi prochain ?», donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a la réponse depuis hier soir 20h, très précisément, au moment où ont été annoncées les estimations sortant du scrutin de ce deuxième tour des élections législatives. Alors, la libre pensée s'est exprimée au sujet de ces élections à travers des déclarations que j'ai lues dans le cadre de cette chronique lors des précédentes chroniques. Je rappelle le titre de la déclaration faite avant le premier tour. Un seul impératif pour défendre la démocratie, battre l'extrême droite et ses alliés directs et indirects, chasser les macronistes responsables de leur expansion, c'est le même combat. Au lendemain du premier tour, donc lundi dernier, le nouveau communiqué de la Fédération nationale reprenait en fait le premier communiqué en ajoutant quelques lignes. Après le premier tour des élections législatives 2024, tout est possible, même l'impossible. Il faut écraser l'extrême droite, ses alliés et ses promoteurs macronistes. Si on regarde le résultat d'hier, c'est ce qui s'est passé. Le parti du président est battu et l'extrême droite est repoussée. Oh, tout n'est pas réglé, loin de là. Mais c'est un pas extrêmement important qui met le pays à l'abri d'un gouvernement qui aurait mis en œuvre finalement l'ensemble du programme de la Macronie, aggravé par une lecture encore plus raciste si le Rassemblement national avait eu une majorité et surtout une majorité absolue. Ils n'ont ni la majorité absolue, ni la majorité relative. Cette majorité revient, c'est une majorité relative qui revient au nouveau Front populaire. C'est le résultat des élections. Donc, effectivement, les macronistes sont chassés et l'extrême droite est repoussée. Nous pouvons dire que le résultat est là, net et sans bavure. La Macronie est balayée, rejetée par 80% du pays. Et c'est quelque chose de très, très clair. Alors, maintenant, que peut-on dire après ce deuxième tour ? Tout est possible, à deux conditions. La rupture totale avec le système, en finir avec les institutions de la Ve République. Le résultat est clair et net. Échec patent de l'extrême droite rejeté massivement par le pays. Rejet écrasant, confirmé d'Emmanuel Macron et de la Macronie. La gauche unie, NFP, remporte la majorité à l'Assemblée nationale. Alors, quelques commentaires que je peux faire à titre personnel. Depuis l'annonce des résultats, donc hier soir 20h, on entend de très nombreuses déclarations des représentants de la Macronie, de l'extrême droite et de ses alliés directs et indirects, pour reprendre la formule de notre communiqué, et toutes vont dans le même sens. Les chiffres sont têtus, mais quelle combinaison pourrait-on trouver pour faire en sorte que, en gros, ça continue comme avant ? Ou que, plus exactement, que le programme de la Macronie puisse se poursuivre, s'aggraver et mettre encore un peu plus le pays dans le chaos, fracturer le pays. Au niveau de la libre pensée, nous nous situons sur le terrain de la démocratie. Les députés élus sur investiture du nouveau Front populaire sont liés par un mandat. Ce mandat, c'est le programme du nouveau Front populaire, les 150 mesures qui ont été adoptées par l'ensemble des organisations qui constituent ce nouveau Front populaire. Et l'application de ces mesures me paraît contradictoire avec toute combinaison politicienne avec des hommes de la Macronie ou d'autres représentants de ceux qui, depuis des dizaines d'années, exercent le pouvoir et tournent le dos à la volonté populaire. Donc, c'est la question de le respect de la démocratie, ou trahison des engagements pris lors de la constitution du nouveau Front populaire. Rappelons qu'au lendemain des élections européennes, ça a été le premier acte de constitution du nouveau Front populaire, s'était tenue une réunion, je crois me souvenir que c'était à Paris, à la Maison de la Chimie, mais ce point n'est pas essentiel. Ce qui est important, c'est la manifestation qui s'était tenue devant ces locaux, avec les mots d'ordre qui ont été lancés par la foule présente, « Unissez-vous » à l'adresse des dirigeants, « Unissez-vous » et « Ne nous trahissez pas ». Et « Ne nous trahissez pas ». Alors, ce, entre guillemets, grand bloc central, sans le RN et sans LFI, tel que le formulent de nombreux politiciens à l'heure actuelle, est complètement contradictoire. Cela supposerait qu'au lendemain du scrutin, des élus NFP non LFI abandonnent le contrat qui les lie aux électeurs. « Et ne nous trahissez pas », scandait la foule. On voit là combien s'exprime la contradiction entre la volonté exprimée dans le scrutin de ces élections législatives, et notamment le scrutin du deuxième tour, et ce qu'est la Ve République, antidémocratique, consubstantiellement antidémocratique, pourrait-on dire. Et je rappellerai que de fait, premier fait, 1960, la Ve République est naissante, toute neuve, et c'est la loi Debré, la loi de financement public des écoles privées, qui est adoptée au Parlement par 427 pour, 71 contre. Et que voit-on ? Le peuple qui s'était déjà largement mobilisé contre ce qui a été le projet de loi, poursuit sa mobilisation en signant une pétition qui est la plus importante qui ait jamais été signée dans le pays. Près de 11 millions de citoyens qui ont signé sur la base des registres électoraux. 11 millions de citoyens qui ont signé la pétition exigeant que cette loi ne soit pas adoptée et s'engageant, si elle ne l'était pas, c'est le serment de Vincennes, à combattre jusqu'à l'abrogation de la loi Debré. C'est la plus importante pétition qui n'ait jamais existé dans le pays. Pour ce qui est de la Dordogne, je crois que c'est quelque chose comme 168 000 citoyens qui ont signé cette pétition. C'est la majorité absolue du corps électoral de l'époque. Alors, et c'était le cas dans de très nombreux départements. Donc on voit bien à quel niveau s'exprime la contradiction entre la démocratie et la Ve République. Et puis, je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'a permis cette Ve République. Relevons quand même au passage la question du référendum sur l'Europe, où le vote majoritaire non a été bafoué par les assemblées qui, en passant par-dessus la volonté populaire, ont décidé que le peuple avait dit oui. Et puis, pour reprendre l'élément le plus récent, la loi retraite, l'ensemble de la population mobilisée contre la loi retraite, très largement, toutes les organisations syndicales, des dizaines et des dizaines d'associations, et la loi est adoptée. Alors, tout le caractère consubstantiellement antidémocratique de la Ve République et toute combinaison qui réutiliserait ceux qui ont utilisé ces éléments de la Ve République pour gouverner contre le peuple en viendrait à ne pas respecter les slogans lancé par la manifestation dès le 10 juin, et ne nous trahissez pas. Donc nous y reviendrons, parce que attachés à la démocratie et à la libre pensée, nous aurons la semaine prochaine la déclaration complète de la Fédération de la libre pensée, donc suite à ce deuxième tour des élections législatives. Voilà. Alors, je voudrais en venir maintenant à un sujet que je voulais traiter depuis longtemps dans cette chronique. Ça va être un sujet complètement différent de ce que nous venons d'évoquer. Quoique, C'est un sujet, c'est un article que je tire du dernier numéro de L'Idée Libre. Donc, c'est une revue dont je parle souvent dans cette chronique. L'Idée Libre est une revue trimestrielle qui, dans chacun de ses numéros, propose un thème qui est développé à partir de plusieurs contributions de différents de chercheurs, d'universitaires, etc., de démocrates qui expriment leur point de vue par rapport donc au sujet central qui est retenu. Et dans le dernier numéro, le dossier, c'est « Sciences politiques et religions ». Et il y a un article de Jean-Sébastien Pierre, qui est le président de la Fédération nationale de la libre-pensée, dont le titre est « Le concordisme, un obscurantisme cauteleux ». Alors, Aldan, génial théoricien de l'évolution, matérialiste et athée, disait « Il ne peut y avoir de trêve entre la science et la religion ». Et Jean-Sébastien Pierre dit « Il avait profondément raison, et cependant personne ne fait de la recherche scientifique pour combattre la religion. Ce combat est inhérent au développement de la connaissance qui, sans arrêt, se heurte aux dogmes, à tous les dogmes. C'est que l'objet de la science est de comprendre le réel et absolument pas de prouver ni d'infirmer l'existence d'un Dieu. Nous ne sommes plus à l'époque de Galilée. L'Église catholique, comme les autres, a perdu de sa puissance sociale. Aucun scientifique contemporain ne risque d'être brûlé vif pour avoir contesté les dogmes sacrés. Certains, cependant, peuvent encore être menacés dans leur liberté ou leur vie dans les États théocratiques fondamentalistes, comme l'Iran. Cependant, le recul des églises et des religions ne se fait pas sans une éternelle résistance. Leur recul est toujours élastique, c'est-à-dire prêt à reprendre du terrain dès que la pression faiblit. C'est dans ce contexte que s'exprime ce que l'on appelle le concordisme. Le concordisme est la prétention de concilier la religion et la science, tentative saugrenue, car les dogmes naissent des fables contenues dans les textes sacrés. Faudrait-il, par exemple, concilier le conte du petit chaperon rouge avec l'éthologie du loup connue actuellement ? Les vrais loups ne se déguisent pas en grand-mère et n'ont que faire des bobinettes et chevillettes qui, d'ailleurs, ont disparu de nos modernes serrures. Pourtant, des théologiens modernes cherchent à assimiler la théorie du Big Bang à la création divine. Une création, peut-être, mais en 14 milliards d'années, pas en 7 jours, et certainement pas dans l'ordre précisé par la Genèse dans laquelle Dieu crée la lumière le premier jour et le soleil seulement le quatrième, après avoir séparé la terre de la mer. On peut ironiser sans fin sur ces vieilles légendes dont les théologiens modernes admettent ou proclament le sens symbolique, mais pendant des siècles, les admettre pour vrai était obligatoire. La connaissance scientifique a bousculé tout cela. Comme le disait Sébastien Faure, les dieux sont nés de l'ignorance et de la peur. La connaissance chasse les dieux sans en avoir le dessein. En cela réside l'impossibilité de la trêve évoquée par Aldan, que nous citions donc au tout début de cet article. Quelle est l'origine du concordisme ? L'origine du concordisme n'est autre que ce repli élastique, contraint et forcé, auquel les religions sont acculées. Dès lors, une autre forme de résistance s'opère. Les récits sacrés et les connaissances scientifiques seraient compatibles. Si des textes relevant du concordisme sont apparus plus tôt, l'officialisation de la tentative date de 1893. Il s'agit de l'encyclique « Proveditissimus Deus », « Dieu suprêmement providentiel » en français, du pape Léon XIII, auteur également de « Rerum Novarum », et ce n'est pas un hasard. Léon XIII cherche à la fois à s'opposer au socialisme par une doctrine sociale, c'est le cadre de Rerum Novarum, et à s'opposer aux avancées scientifiques par une prétention à la conciliation. Sa thèse est que la science véritable ne peut pas contredire les saintes écritures lorsque celles-ci sont expliquées correctement. Il y a deux éléments importants dans cette thèse. Le premier est que n'est véritable qu'une science qui ne contredit pas les saintes écritures. Le second rejette la conciliation dans le camp des théologiens. En les expliquant correctement, les saintes écritures s'accordent avec la science. Il maintient que ces dernières sont fondamentalement inhérentes, c'est-à-dire dénuées d'erreurs dans leur rédaction d'origine. Le cadre de l'absurdité est posé. toute science peut être contestée au nom des Écritures, l'interprétation des Écritures peut être distordue à l'envi pour cadrer avec la science, le concordisme devient lui-même un dogme. Par bien des côtés, le concordisme de Léon XIII prend acte du coup fatal porté à la religion par l'œuvre de Charles Darwin. C'est le second coup dur après Galilée. Le mythe d'Adam et Ève cède le pas à un long processus d'évolution depuis, horreur, un primate, un singe. La création divine prend sa place dans une lignée d'êtres vivants remontant à près d'un milliard d'années. En Angleterre, l'évêque anglican Samuel Wilberforce défia les darwiniens en débat public à Oxford le 30 juin 1860. C'est Thomas Huxley, collaborateur de Charles Darwin, qui releva le gant. Au cours de la séance, Wilberforce se hasarde à un trait d'esprit. « Descendez-vous du singe par votre grand-père ou par votre grand-mère ?» Et Huxley de répondre « Je n'ai aucune honte à descendre d'un singe plutôt qu'un homme de foi qui prétend s'occuper de questions scientifiques auxquelles il n'entend rien. » Mettant, dit-on, les rieurs de son côté. Le dialogue sans religion commençait mal. Si l'anglicanisme avait réagi très tôt, un an seulement après l'apparition de l'Origine des espèces, donc de Charles Darwin, l'Église catholique observa une certaine prudence pendant plusieurs années. Seul, l'épiscopat allemand énonça immédiatement une condamnation catégorique. Le succès universitaire du transformisme en Europe conduit non à l'anathème, le souvenir de l'affaire Galilée incite à la prudence, mais à la tentative concordiste, œuvre de Léon XIII. On n'attaque plus de face, on distord à la fois la science et les textes fondateurs jusqu'à une illusoire compatibilité. Cette ligne de conduite obtint, à vrai dire, un succès limité. En dehors de la figure très particulière du père jésuite Pierre Teilhard de Chardin, il n'est pas étonnant que ce dernier soit la figure tutélaire du concordisme actuel. Donc l'apogée du concordisme, Pierre Teilhard de Chardin, né en 1881 et décédé le 10 avril 1955, est un prêtre jésuite, ayant acquis par goût une formation scientifique en paléontologie. Réellement acquis à ce qu'il croyait être la thèse darwinienne, il effectue sa première tentative concordiste. Dans un article privé, il envisage la sélection naturelle non comme une punition, mais comme une partie intégrante d'un plan divin. La hiérarchie jésuite n'apprécie pas du tout. Cet article non publié est non destiné à l'être. Fuite. Et Teilhard perd son poste de professeur de géologie à l'Institut catholique. L'ordre des jésuites lui demande d'abandonner l'enseignement et de poursuivre ses recherches paléontologiques en Chine. Teilhard fut ainsi victime d'une hostilité à son concordisme que les autorités ecclésiastiques n'avaient pas encore vraiment entériné. Cependant, en 1932, dans « Christologie et évolution », il propose une vision théologique de la théorie de l'évolution. En un mot, l'évolution fait que la création divine est permanente, l'Église n'est pas convaincue, quand même la Genèse. Son œuvre majeure, celle qui lui vaudra une notoriété dans le grand public, notamment dans les milieux catholiques, c'est « Le phénomène humain » publié en 1965. On y lit notamment « L'homme, non pas centre statique du monde, comme il s'est cru longtemps, mais axe et flèche de l'évolution. » On est là en plein concordisme. Évolution, d'accord, mais orientée, dirigée vers l'homme, évidemment par la volonté de Dieu. Cette vision orthogénétique, dirigée vers un but, de l'évolution, n'est pas du tout darwinienne, elle est tout à fait néo-lamarckienne, ce qui était alors une pénible tradition de l'université française. Teilhard de Chardin était dès lors bien intégré en Sorbonne, même si des scientifiques rationalistes le contestaient fortement. Cette vision était une théorie déjà réfutée de son vivant par les pionniers du néo-darwinisme, Sewall, Wright, Ronald Fisher, Haldan, dès les années 30, puis Philippe L'Héritier, Ernst Mayr, George Gaylord Simpson, Theodosius Dobzhansky et Gustave Maléco après la guerre de 39-45. Ainsi, dans son compte-rendu du phénomène humain, pour la revue scientifique américaine, George Simpson, pourtant ami de Teilhard, considère que, citation, « On ne peut contester la piété et le mysticisme du livre, mais on peut réfuter sa prétention initiale de constituer un traité scientifique. Et plus loin, l'imprécision ou la contradiction dans les définitions sont un des problèmes constants du canon théilhardien. Pour le prix Nobel, Peter Medawar, biologiste et médecin, dit « Teilhard a pratiqué une sorte de science dépourvue de rigueur intellectuelle. » Un peu plus loin, il poursuit « Il n'a aucune idée de ce qui différencie un argument logique d'une preuve. » Et encore plus loin, il utilise métaphoriquement des termes comme énergie, tension, force, impulsion ou dimension, comme s'il conservait le poids et la force de leur véritable signification scientifique. Et enfin, c'est le style qui produit l'illusion du contenu. Fin de citation, donc, de ce que disait Peter Medawar. Il faut dire que le phénomène humain s'envole vers les plus grands délires. Donc le livre de Teilhard de Chardin. L'homme ne serait pas le fin mot de l'évolution, il continuerait d'évoluer vers le point oméga, dans le déploiement de ce qu'il appelle la noosphère, une sphère de la pensée humaine qui elle-même préparerait l'avènement du Christ cosmique. L'évolution va du point alpha, la création, au point oméga, la fusion avec Dieu. On n'est même plus dans de la théologie, on est quelque part entre le mysticisme catholique et le matin des magiciens de Bergier et Powells. D'ailleurs, ces derniers, dans leur revue Planète, ne cesseront de rendre hommage au père jésuite visionnaire. Il faut rappeler aussi que Teilhard de Chardin, en toute charité chrétienne, salua avec enthousiasme l'explosion des deux bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, ainsi que le projet Manhattan qui avait permis leur réalisation. En septembre 1946, dans la revue jésuite Études, il publie un article intitulé « Quelques réflexions sur le retentissement spirituel de la bombe atomique ». Comme disait Cléante dans le Tartuffe de Molière, « Les sentiments chrétiens, mon frère, que voilà ». Cependant, l'Église n'y trouve pas du tout de suite son intérêt. Ses œuvres sont même condamnées par le Saint-Office en 1955 et 1962 en raison d'une interprétation jugée hétérodoxe du péché originel. L'apothéose catholique de Teilhard de Chardin viendra de Jean XXIII et du Concile Vatican II. Sa gloire ecclésiastique est donc posthume, mais ô combien vivace. Elle illustre les vicissitudes du concordisme, corde d'équilibriste tendue entre le dogme et un semblant de science. Après quelques 40 années de relative léthargie, cette tendance revient en force avec Karol Wojtyla, Jean-Paul II, Joseph Ratzinger, Benoît XVI, et Jorge Bergoglio, François. Ainsi, Karol Wojtyla admettait « L'évolution est plus qu'une hypothèse », tout en tempérant sévèrement par « La vérité ne peut contredire la vérité », et en excluant l'homme humain de la théorie en condamnant, citation, « les théories de l'évolution qui considèrent l'esprit comme émergeant des forces de la matière vivante ou comme un simple épiphénomène de cette matière ». Quant à Joseph Ratzinger, il déclare « Le magistère de la religion s'étend aux questions ultimes alors que celui de la science s'intéresse aux faits de ce monde. » Des limites, toujours des limites. La refondation de l'Académie pontificale des sciences par Pie XI en 1936 relève de la même démarche, observer soigneusement les avancées de la science pour évaluer comment s'y opposer ou s'y adapter. Autour du Big Bang. La théorie du Big Bang ne cesse de fasciner les prélats de l'Église par son apparence d'instant créateur. Sa formulation initiale provient, qui plus est, d'un physicien belge catholique et même chanoine, Georges Lemaître, contemporain à quelques années près de Teilhard de Chardin, puisque né en 1894 et mort en 1966. Formé au Collège des Jésuites de Charleroi, puis à l'Église catholique de Louvain en Belgique et titulaire d'un baccalauréat de philosophie thomiste, il devient ensuite physicien de haut niveau, rédigeant en 1922 un mémoire sur la physique d'Einstein qu'il a parfaitement assimilé. Il a rencontré Einstein lui-même à plusieurs reprises. Sa carrière scientifique l'amène à l'université de Cambridge, puis à Harvard et au MIT. Sa théorie de l'atome primitif séduit le pape Pie XII, qui l'évoque dans un discours de 1951 en comparant la théorie du Big Bang à l'épisode Fiat Lux de la Genèse. Lemaître a lui-même été partisan du concordisme avant les années 30, mais en 1951, il a rompu avec cette attitude au profit de ce qu'il nomme lui-même un discordisme méthodologique caractérisant son ancienne conviction comme une erreur épistémologique. Il fait connaître au pape son désaccord avec son interprétation. Georges Lemaître doit, à mon sens, être salué pour cela. Donc c'est Jean-Sébastien Pierre qui écrit donc cet article et qui dit cela. Pour pratiquer la recherche scientifique, poursuit donc Jean-Sébastien Pierre, les croyants doivent adopter une attitude de matérialisme méthodologique, selon une expression heureuse de Guillaume Lecointre. Il faut reconnaître aussi que la déclaration malheureuse de Pie XII ne pouvait qu'embarrasser le maître, taxé de créationnisme par d'éminents astronomes de l'époque, en particulier Fred Hoyle, à qui l'on doit le terme même de Big Bang, avec une connotation très ironique. Hoyle et d'autres astronomes lui opposaient une autre théorie dite de la création continue de la matière. Gamow, au contraire, soutenait avec le maître que l'univers entier provenait d'un état initial hyper dense. Le maître était ainsi en quelque sorte pris entre deux feux et ne voulait absolument pas être traité de créationniste. Si la théorie de Lemaître a tenu mutatis mutandis jusqu'à ce jour, c'est par la multiplication des observations, des mesures et des progrès de l'astrophysique, notamment la découverte du rayonnement à 4K dont Lemaître a eu connaissance juste avant sa mort. Cela n'empêche pas les tenants actuels d'un créationnisme cosmique d'y voir le doigt de Dieu. La liberté religieuse permet à chacun de voir ce doigt où il veut, pourvu qu'il ne cherche pas à l'imposer à la science. Je pense que je n'aurai pas la possibilité de lire cet article jusqu'à la fin, donc je vous renvoie à la revue donc L'Idée Libre, le numéro 344 de mars 2024, que vous pouvez vous procurer auprès des militants du groupe Pretzeler de la Libre Pensée pour les auditeurs qui sont en Dordogne et pas trop loin de Périgueux. C'est très, très simple de pouvoir vous procurer cette revue. Elle est également, vous pouvez également la commander en allant sur le site de la Fédération nationale de la Libre Pensée avec l'ensemble donc, des ouvrages qui sont proposés. Alors, je voudrais, pour terminer cette chronique, faire une annonce. Vous savez qu'il y a des liens étroits entre la Fédération nationale de la libre pensée et l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Nous avons reçu à ce micro de Radio Libre en Périgord, pour une interview, Jonathan, le président de la fédération, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et donc, c'est au moment des textes de loi qui sont maintenant devenus complètement obsolètes avec la dissolution et qui ont ouvert une discussion donc sur la question de la fin de vie. Bien évidemment, cette question n'est pas du tout abandonnée, bien au contraire, par l'ADMD, ni par la libre pensée, qui en a d'ailleurs fait l'un des trois points soumis à l'avis des différents candidats aux élections législatives sur leur volonté de remettre ça sur le tapis pour obtenir une loi donc de liberté sur la fin de vie. Donc l'ADMD prend des initiatives, et en particulier, comme chaque été, c'est le ADMD Tour qui fait étape dans toute une série de villes, Lyon, Gevrey-Chambertin, Mulhouse, Colmar, Strasbourg, etc. Je ne vous donnerai pas la liste complète. Ce qui est très important, c'est que l'ADMD Tour fait étape à Périgueux le lundi 15 juillet 2024, de 10h à 14h, place du Coderre à Périgueux. Donc rendez-vous pour nos auditrices et auditeurs, et je sais que vous êtes nombreux à vous intéresser à ce que fait l'Association pour le droit de mourir dans l'unité, que je crois même que nombreux d'entre vous êtes adhérents de cette association. Donc rendez-vous lundi 15 juillet 2024, 10h-14h, place du Coderre à Périgueux, pour l'ADMD Tour. C'est une initiative portée par les jeunes de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Voilà, informations, conseils, etc., écoute, toute une série d'initiatives sont prises dans le cadre de cet ADMD Tour. Donc je rappelle une dernière fois, lundi 15 juillet, 10h-14h, place du Coderre, Périgueux, l'ADMD Tour. Et je vous donne rendez-vous, auditrices et auditeurs, pour notre prochaine chronique du groupe Pretzeler, lundi prochain. Nous serons donc précisément le 15 juillet.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.